Chapitre 23. Jonathan. 17 juillet 2018. Je m'appelle Jonathan Townsend. Je suis né à Miami en 1974. Je suis divorcé et j'ai deux garçons de 6 et 8 ans, en garde alternée. Je vis aujourd'hui à Isla Morada, l'île pourpre, minuscule paradis au cœur des Keys de Floride. À la fois perdu en plein golfe du Mexique, et relié à Miami par cette autoroute extraordinaire que vous connaissez sûrement, au moins en photo. La Highway numéro 1. J'y ai mon atelier et j'y donne des cours de dessin pour le plaisir du partage. Pour briser la solitude aussi. Attention, je suis très heureux. C'est une solitude choisie. C'est une liberté choisie. J'ai la chance de vivre de mon art. On peut même dire que je suis un peu connue. Mais je ne montre jamais mon visage. Et je n'accorde que très peu d'interviews. Ça contribue sûrement à une certaine aura mystérieuse qui donne de la valeur à ce que je produis. D'ailleurs, qu'est-ce que je produis? Vaste question. J'ai longtemps essayé de percer dans le milieu de l'art conventionnel, de vendre mes toiles, trouver un galeriste qui croirait suffisamment en mon travail pour le défendre et me permettre de joindre les deux bouts. Étant de nature persévérante, j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 28 ans, même si la lassitude l'emportait déjà depuis bien longtemps sur l'exaltation. En 2002, mon père est mort, d'un banal accident vasculaire cérébral. Son décès a agi sur moi comme un détonateur, me poussant à remettre en question mes pratiques, à donner un sens plus large à mon œuvre. Ce jour-là, j'étais avec un groupe d'amis à New York et j'ai découvert les merveilleuses fresques qui enveloppent les immeubles du Lower East Side. Ce jour-là, j'ai trouvé ma voie dans le gigantisme. Une voie illégale, sans être trop risquée non plus. J'ai commencé à chercher des bâtiments abandonnés et j'ai recouvert leurs murs décrépits de motifs géométriques, illusions d'optique ou trompe-l'œil. Je me suis mise à transformer des immeubles désaffectés en expériences sensorielles uniques, tout en entretenant le mystère sur mon identité et en signant de ce « Lizzie » qui est désormais ma marque de fabrique. C'était en 2002. Les New-Yorkais avaient un besoin viscéral de poésie. J'ai envoyé des mails anonymes à des galeristes qui m'avaient tourné le dos auparavant, les invitant mystérieusement sur les lieux de mes opérations artistiques délictuelles. Le buzz a pris. Les amateurs d'exploration urbaine se sont passés le mot, la presse s'est emparée du phénomène, guettant mes nouvelles œuvres. Je les ai répartis entre New York et Miami, sans m'interdire des petites incartades en Californie ou sur un lieu de vacances. Ces installations ne me rapportent pas d'argent, mais elles sont ma carte de visite. Ce sont elles qui font ma cote. Ma vie, je la gagne sur les commandes. Tel collectionneur aimerait une version en modèle réduit, sur une plaque de béton, de ce portrait d'Angela Davis installé dans une usine désaffectée du Bronx. Tel autre est prêt à payer le prix fort pour obtenir une toile reproduisant très exactement ce Donald Kissing Barack, dont je suis très fière, et qui orne un mur du quartier de Wynwood, à Miami. Mon identité est restée secrète quelques années. Elle a ensuite été révélée, mais cela n'a rien changé. La mécanique était amorcée. Le lien a été fait avec mes œuvres de jeunesse signées JT, qui ont pris de la valeur, mais je ne réponds pas à la presse, ne poste aucune photo de moi sur le web. Le seul lien que je garde avec le public, c'est cette adresse mail qui figure sur tous les supports que je travaille. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, alors, me direz-vous. C'est vrai. Je n'ai pas à me plaindre. Mais je traîne un spleen lancinant. Une incapacité à apprécier le moment présent. À être heureux dans l'instant. Je tiens ça de mon père, Dean. Mon père qui me manque tellement. Et qui m'a transmis son obsession. Obsession qui s'est muée en objectif lorsqu'il est mort, puis en signature. Mon père est né en 1938 à New York, mais ses parents ont déménagé alors qu'il n'avait que quelques jours. Son père était infirmier, il avait eu une proposition d'embauche à Miami. La famille voulait changer d'air, c'était parfait. Ils ont vécu toute leur vie en Floride et j'y suis restée. Mon père était fils unique, je suis fils unique. J'ai brisé le cycle avec mes deux garçons. Mon père a toujours cherché à comprendre l'origine de ce tatouage étrange qui ornait son bras gauche. Ce Lizzie, auquel mes grands-parents n'ont jamais fourni d'explication véritablement satisfaisante à ses yeux. Il s'agissait, d'après eux, de la trace laissée par une chaudière dont il s'était approché à l'âge de 12 mois. Le fioul brûlant avait imprimé son bras de la marque commerciale de la machine, agissant comme un tatouage. Ils avaient eu très peur, ne s'étaient plus jamais chauffés au fioul. Le petit Dean avait été soigné, mais la marque était restée. Fin de l'histoire. Mon père n'avait aucun souvenir de cette blessure. Mais qui se souvient de ce qui lui est arrivé à cet âge? Alors pendant toute son enfance, cette marque indélébile ne l'a pas vraiment inquiété. C'est au sortir de l'adolescence qu'il a commencé à développer une obsession dérangeante pour son tatouage. Mon père s'est toujours pensé extrêmement différent de ses parents. Physiquement d'abord, mais aussi en termes de valeurs, de vision de la vie. Aussi a-t-il toujours gardé une certaine distance avec eux. Mes contacts avec mes grands-parents étaient la plupart du temps purement utilitaires. Et puis un jour, mon grand-père est tombé malade, et mon père a mis la main, en aidant sa mère à chercher des papiers, sur de banales prises de sang, qui ont éclairé d'un jour nouveau cette sensation tenace. Sa mère était du groupe sanguin A, son père du groupe A. Lui était B. Il était absolument impossible qu'il soit leur enfant. Son monde s'est effondré. La confrontation avec sa mère a tourné court. Elle a nié en bloc, contre l'évidence, contre la biologie. Jamais elle n'est parvenue à avouer. Dean n'est pas allé voir son père sur son lit de mort. Dean n'est pas allé voir sa mère, décédée peu après. La rupture a été totale. Définitive. C'était en 1990. J'avais 16 ans. Dès lors, mon père n'a eu de cesse d'enquêter sur les circonstances de sa naissance. Mais à l'époque, Internet n'existait pas. Tout était coûteux, fastidieux. Les moyens de recherche n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Mon père s'est rendu à New York, est parvenu à retrouver le logement dans lequel ses parents vivaient au moment de sa naissance. Et des éléments ont commencé à s'imbriquer. Il a fait ce que l'on nommerait une enquête de voisinage. Par chance, l'immeuble accueillait encore une vieille dame ayant connu ses parents en 1938. Elle a comblé certains trous. Elle a confirmé que sa mère était enceinte, oui, mais que son accouchement a été terrible. Ses cris ont résonné dans tout l'immeuble pendant de longues heures. Des plaintes, des hurlements à la mort, toute une nuit. Et puis au petit matin, les cris ont cessé. Le lendemain, le père faisait une telle tête. Tout le monde a compris que l'enfant était décédé. Mais personne n'a jamais rien demandé. Et la famille Townsend n'a jamais rien dit. Aussi, tout l'immeuble a-t-il été agréablement surpris de voir apparaître 3 jours plus tard la mère tenant son bébé dans les bras. Il était en pleine forme. Très silencieux, mais en pleine forme. Quelques jours plus tard, la famille Townsend a déménagé. Un nouveau départ dans un état du Sud. Ils n'ont pas laissé d'adresse. La vieille dame n'était pas particulièrement amie avec eux. Elle n'a pas cherché à savoir. Mais elle se souviendrait toujours de cette nuit-là. Des cris de douleur de cette femme. Lors de son voyage à New York, Dean a également appris que son père était, au moment de sa naissance, infirmier à Ellis Island. Dès lors, Dean a acquis l'intime conviction d'avoir été volé par son père sur Ellis Island. Il a imaginé la détresse de sa mère face au décès de leur bébé dans des conditions si terribles, et puis la tentation, à portée de main. De nombreux mineurs immigrants arrivaient sur l'île sans leur famille, et des rumeurs ont toujours circulé sur des vols d'enfants. Rien n'a jamais été avéré, mais comment savoir? L'époque n'était pas au décompte minutieux. L'époque était aux millions de nouveaux venus. Alors un gamin de plus ou de moins. Dans les années 1990, les registres d'Ellis Island n'étaient pas informatisés. Même avec un nom de famille comme Lizzie et une date approximative d'arrivée autour de sa naissance, C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et puis, qui pouvait garantir que Lizzie était un nom de famille, et non un diminutif, un surnom, un prénom? Mais Dean n'a pas renoncé. Il a passé des annonces, mentionnant son nom présumé, sa date de naissance présumée, le motif de son tatouage. Dans le New York Times, dans le Washington Post. Il a dépensé une fortune et une énergie folle là-dedans. Ça n'a jamais rien donné. Mais il a toujours gardé l'espoir de retrouver sa vraie famille. Alors un jour, il m'a demandé de reprendre le flambeau lorsqu'il mourrait. Je ne voulais pas m'enfermer dans cette obsession, mais c'était mon père. Et mes origines. Alors j'ai promis. Lorsqu'il est mort en 2002, j'ai décidé de changer mon art radicalement et de le signer du motif de ce tatouage. Lizzie. J'ai repris le flambeau à ma manière, en décorant les murs de ce tatouage, en le diffusant aussi largement que je le peux. Je me dis qu'il y a une toute petite, une infinitésimale chance que quelqu'un le reconnaisse et me contacte. Plus le temps passe et moins j'y crois, évidemment. Mais je l'ai promis à mon père. Alors je continue à diffuser cette signature. Et maintenant que j'ai un peu d'argent de côté, je fais de temps en temps des actions dérisoires, symboliques, pour honorer la mémoire de mon père. Je fais distribuer des flyers dans des boîtes aux lettres. Je fais visser des plaques dans les parcs qui le permettent. J'achète des espaces publicitaires dans le métro, dans les gares. Toujours avec le même motif et la même adresse mail. Le monde de l'art trouve ça merveilleux. Pense que c'est une idée formidable pour entretenir le mythe Lizzie. Warhol utilisait la publicité pour en faire de l'art. Lizzie utilise son art pour en faire de la publicité. C'est un effet secondaire inattendu de ma démarche. Récemment, des tests génétiques se sont développés qui estiment les régions du monde dont un individu est issu, accompagnés de pourcentages. J'ai reçu les résultats l'année dernière. La moitié de mon patrimoine génétique pointe vers le nord de l'Italie. La plupart du temps, je ne pense plus à cette histoire. Ça ne m'empêche pas de vivre, non. Mais j'ai souvent l'étrange impression que la blessure de mon père est toujours là, quelque part au fond de moi, et qu'elle continuera de me hanter comme elle l'a hanté. Lorsque mes enfants me posent des questions sur cette signature étrange qui est la mienne, j'élude. Je ne veux pas leur en parler, car je ne veux pas leur transmettre cela. Est-ce la bonne méthode? Le silence vaut-il mieux que la répétition? Je ne sais pas. Mais je veux essayer une autre voie, pour eux. Quant à moi, je sais bien que ces signatures déposées un peu partout sont des bouteilles à la mer. Je consulte l'adresse indiquée sur mes œuvres une à deux fois par semaine, machinalement. La plupart du temps, il n'y a aucun message. Parfois, il y a des mots sympathiques. On me félicite pour une œuvre en particulier. On me demande des conseils. De temps en temps, rarement, je reçois des canulars ou des insultes. Jamais je n'ai reçu aucun message faisant allusion au tatouage de mon père. Jusqu'à aujourd'hui.